Bienvenue dans The Debate, notre espace d'exploration intellectuelle et de croisement des perspectives. Aujourd'hui, on va se pencher sur une donnée à la fois paradoxale et franchement fascinante. Figurez-vous que dépenser 10 000 euros dans un tournage traditionnel, méticuleux, eh bien, ça vous coûte désormais 35 % plus cher en acquisition client qu'une petite vidéo tournée un peu à la va-vite au smartphone, puis remontée par une intelligence artificielle.
Ouais, c'est frappant.
Complètement. On est en mai 2026 et si vous gérez un budget marketing aujourd'hui, vous savez que c'est une tension que vous vivez au quotidien. On assiste vraiment à une transformation radicale de l'acquisition, de ce qu'on appelle le ghost, quoi. Et c'est totalement propulsé par l'avènement de l'ad créative 3.0 et la vidéo générative.
C'est un bouleversement sismique, effectivement. Et la question de fond qu'on va devoir disséquer aujourd'hui, c'est celle-ci. Est-ce que la transition vers cette hypervélocité créative qui est générée et pilotée par l'IA, est-ce qu'elle rend définitivement obsolète les tournages traditionnels? Ou bien est-ce que cette course vraiment frénétique au volume, ça sacrifie l'essence même de la qualité et de la marque au profit d'un algorithme insatiable?
Absolument. Et juste pour bien poser le cadre de notre échange, on ne parle pas de théorie, là. Les données de ce trimestre, elles sont très claires. Les marques utilisent des créations hybridées, donc une base humaine qui est massivement itérée par l'IA, elles observent une baisse de 35% leur coût d'acquisition, le fameux CAC, par rapport aux marques qui s'accrochent aux méthodes de production classiques. Donc, pour ma part, je défends l'idée que cette évolution vers l'ad créative 3.0, c'est une réponse qui est non seulement rationnelle, mais strictement vitale, parce qu'elle est dictée par l'architecture même des algorithmes de Meta et TikTok.
Et de mon côté, je soutiens que cette approche, même si elle produit un mirage de rentabilité à court terme, eh bien elle réduit dangereusement la création à une simple itération mécanique. Une approche qui, selon moi, montre d'ores et déjà de très profondes limites qualitatives.
Alors, allons directement au fond du problème. Pour moi, honnêtement, le débat sur la qualité intrinsèque de l'image, c'est un débat du passé.
Ah bon ?
Oui, parce qu'en 2026, la définition même d'une bonne publicité a muté. C'est plus la taille du capteur de la caméra, vous voyez, ou l'étalonnage parfait, ou le fait d'avoir un directeur de la photo hors de prix. Aujourd'hui, la qualité, c'est la vélocité. C'est la vitesse de rotation de vos créations. Et pourquoi ? Parce que l'algorithme qui distribue votre contenu, que ce soit sur TikTok ou Instagram, il a un besoin constant d'être nourri. Il doit être nourri continuellement pour comprendre à qui il doit montrer votre produit. Il exige du contenu frais, quotidiennement.
Ouais, je vois où vous voulez en venir.
Et dans ce contexte qui est au final purement mathématique, passer 2 semaines à scripter, tourner et monter une seule vidéo magnifique, c'est un suicide économique. Ces pommes, imaginez, vous avez un superbe costume sur mesure. Il est parfait pour une seule occasion. Mais vous ne pouvez plus jamais le modifier. Face à ça, l'ad créative 3.0, c'est une garde-robe modulaire. L'IA générative nous permet aujourd'hui de tester 50 variations d'un concept pour le prix d'une seule production classique.
Oui, financièrement, c'est sûr.
Veut dire, avec les modèles vidéo to vidéo qu'on a aujourd'hui, je peux prendre un facecam complètement amateur, mal éclairé, et l'IA le rerend avec un éclairage studio. Elle modifie la tenue, elle change de décor, tout ça en quelques minutes. Donc la barrière technique s'est effondrée, et la vélocité est devenue la seule métrique qui garantit la performance.
Alors, écoutez, je ne conteste absolument pas la baisse de 35% du CAC. Financièrement parlant, l'avantage tactique, il est là. Mais déclarer la mort des tournages de haute qualité uniquement sur la base de ce chiffre, pour moi, c'est une grave erreur de diagnostic. Le vrai problème avec cette logique de vélocité absolue, c'est que, on passe notre temps à nourrir un monstre affamé, l'algorithme. On le nourrit avec des variations infinies du même vide. En fait, on confond allègrement le volume avec la valeur.
Vous trouvez que c'est du vide ?
Bien sûr. Si vous prenez ce facecam amateur dont vous parlez et que l'IA génère, disons, 50 arrière-plans différents, vous n'avez pas créé 50 concepts publicitaires, pas du tout. Vous avez simplement appliqué 50 filtres sur la même idée de base. Le grand danger de cette approche Ad Creative 3.0, c'est ce que moi j'appelle l'uniformité esthétique totale.
Mais l'algorithme demande justement de la diversité, pas de l'uniformité.
Oui, mais regardez ce qui se passe. Si chaque marque de cosmétiques ou chaque logiciel utilise exactement le même moteur vidéo to vidéo pour lisser son contenu, cette fameuse diversité visuelle que l'algorithme est censé adorer, elle va juste se transformer en une vaste mer de conformité. Tout aura la même texture artificielle, le même rythme frénétique, cette même perfection un peu sans âme. Et à la fin des courses, c'est la différenciation même de la marque qui est complètement détruite.
Alors, je comprends votre point de vue, mais permettez-moi de vous offrir une perspective différente. Vous parlez de l'uniformité comme si c'était une fatalité. Et j'ai l'impression que vous idéalisez beaucoup l'artisanat traditionnel.
Pas du tout, je suis juste pragmatique.
Mais le tournage classique à 10 000 euros, c'est quoi au fond? C'est un monologue? C'est un magnifique panneau publicitaire qui dit une seule chose, d'une seule façon, à tout le monde. Alors que l'aide créative 3.0, ce n'est pas juste un filtre esthétique. C'est une conversation fluide, en temps réel, avec le marché. Ça s'adapte aux réactions presque microscopiques des consommateurs. Et d'ailleurs, ça nous oblige à redéfinir la notion même de production. L'humain n'est pas évincé de l'équation, vous savez. Son rôle a juste muté. Aujourd'hui, on ne tourne plus des pubs, on tourne ce que le marché appelle du master content.
Le fameux master content.
Exactement. C'est de la matière première brute. On assoit un fondateur devant une caméra, on le fait parler de sa vision pendant, disons, 15 minutes, sans aucun script rigide. On capture du b-roll authentique en arrière-plan. Et c'est cette matière-là, profondément humaine, qui sert de carburant. Ensuite, c'est l'IA qui vient découper, analyser et assembler les morceaux selon ce que les données empiriques valorisent sur le moment. Donc, l'intention, elle reste humaine à la base. La machine ne fait qu'opérer la distribution de manière, disons, chirurgicale.
Eh bien, je l'aborde d'une toute autre manière. Vous décrivez ce master content comme une évolution naturelle, un truc presque libérateur. Mais à mes yeux, c'est une abdication totale de la direction créative.
Abdication, hein, c'est fort comme mot.
Mais oui, quand un réalisateur humain construit une publicité, chaque plan est pensé avec une intentionnalité. Le rythme, le silence, un regard vers la caméra, tout ça est calibré pour faire naître une émotion, pour véhiculer le véritable ADN d'une marque.
Sauf que le marché n'a plus le temps pour ce niveau de micro-calibration.
Peut-être, mais en filmant de la matière brute non structurée et en la jetant ensuite dans une machine dont le seul et unique but est de trouver le pic de rétention visuelle, on détruit le cœur du message. Un facecam qui est découpé de manière presque stroboscopique par une IA juste pour empêcher l'utilisateur de scroller, bah c'est pas de la transmission d'émotion ça, c'est de l'hypnose algorithmique. On ne cherche plus à convaincre, on cherche juste à paralyser le pouce de l'utilisateur.
C'est une vision très, très romantique de notre métier. Mais je pense que vous omettez le fonctionnement concret de ces plateformes. L'IA ne découpe pas au hasard juste pour paralyser le pouce. Elle répond à une architecture technique. Meta et TikTok, ils lisent pas les émotions d'utilisateurs. Ils lisent les signaux d'engagement.
Oui, le temps de visionnage, les clics.
C'est ça. Et pour capter cet engagement, aujourd'hui, le mécanisme prouvé, c'est la rupture de pattern visuel. C'est le fait de surprendre l'œil, genre toutes les 3 secondes. Produire cette densité de changement visuel, c'est littéralement impossible avec un tournage traditionnel où on passe 2 heures à régler un seul projecteur, vous voyez ? Laissez-moi vous ancrer ça dans un cas réel, très précis, issu de nos données. Prenons l'exemple d'une DNVB, une marque de compléments alimentaires née sur Internet.
Un secteur où, il faut bien le préciser, la compétition publicitaire est extrêmement saturée.
Mais exactement ! Et leur modèle économique repose entièrement sur l'acquisition digitale. Cette marque, elle faisait face à un mur énorme. La fatigue publicitaire. Au bout de 3 jours de diffusion, bim, le coût d'acquisition de leur pub doublait.
3 jours ? C'est très court.
Très court. Et pourquoi ? Parce que le métabolisme de l'algorithme est ultra rapide. Il montre la vidéo aux acheteurs les plus probables, il épuise tout de suite ce petit bassin d'audience, et ensuite la vidéo s'effondre. Donc, tourner de nouvelles vidéos classiques toutes les semaines, ça dévorait intégralement leur marge. Ils allaient droit dans le mur.
Et donc, le master content.
Voilà. Ils ont basculé sur l'ad creative 3.0. Ils ont fait un seul tournage de 15 minutes avec le fondateur, le master content. Et à partir de là, ils ont utilisé une IA de lip sync, de synchronisation labiale.
Ah, la fameuse traduction générative.
C'est ça. Le logiciel a analysé le visage du fondateur et il a recréé les mouvements musculaires de sa bouche pour qu'il ait l'air de parler couramment espagnol, allemand, italien, anglais. En parallèle, l'IA générative remplaçait le fond de la pièce pour l'adapter visuellement à ses 5 marchés. Résultat, ils ont relancé l'acquisition sur toute l'Europe sans jamais relouer le moindre studio. Leur marge a été sauvée. C'est la rationalisation absolue par la technologie.
C'est un argument convaincant, mais avez-vous envisagé la superficialité de cette manœuvre ?
De la superficialité ?
Oui. Je vous accorde totalement la prouesse financière. Sauver la trésorerie de cette marque à l'instant T, c'est indéniable, c'est un succès. Mais regardons les mécanismes profonds de ce qui vient de se passer. Traduire mécaniquement un mouvement de lèvres et coller une rue de Berlin derrière le fondateur au lieu d'une rue de Paris, c'est pas de l'adaptation culturelle, c'est un simple déguisement.
Bah, c'est une localisation visuelle et linguistique, c'est déjà énorme.
Mais le marché européen n'est pas un bloc monolithique. Le levier psychologique qui va convaincre un consommateur allemand d'acheter un complément alimentaire, disons. Peut-être la rigueur scientifique ou des normes cliniques très strictes. Ce n'est absolument pas le même que celui qui persuadera un consommateur espagnol ou italien. Eux réagiront peut-être beaucoup mieux à une approche axée sur le style de vie ou le bien-être holistique. En utilisant ce modèle unique de 15 minutes décliné par l'IA, vous imposez un discours unique sous un masque linguistique multiple. Vous créez l'illusion de l'hyperlocalisation. Et croyez-moi, à moyen terme, le consommateur s'en rend compte.
Alors, vous avez raison, sur les nuances culturelles, c'est certain. Mais là encore, la technologie a une longueur d'avance sur la théorie. L'Ad Creative 3.0 ne présume pas de ce qui fonctionne à l'avance. Elle le teste. Si le discours scientifique, traduit mécaniquement, échoue en Espagne, à cause de cette fameuse dissonance culturelle que vous évoquez, l'IA le détecte immédiatement, via la chute du taux de rétention sur le tableau de bord Meta. Et c'est justement ici qu'entre en jeu le mécanisme le plus puissant de cette révolution, l'automatisation de l'itération, ou ce qu'on appelle le deep hooking, géré par des outils de workflow comme N8N.
Ah, nous y voilà. La manipulation de l'attention à son paroxysme.
C'est de l'ingénierie de la performance, tout simplement. Expliquons comment ça marche concrètement pour ceux qui nous écoutent. Vous utilisez un outil d'automatisation, disons N8N, qui agit vraiment comme un système nerveux numérique. Cet outil se connecte à l'API de vos publicités Meta en pleine nuit.
Oui.
Il constate que la vidéo s'essouffle en Espagne parce que, disons, 60% des spectateurs décrochent à la troisième seconde. Que fait le système ? Il envoie automatiquement une requête à l'IA générative. Crée-moi trois nouvelles variantes visuelles des trois premières secondes de cette vidéo, donc les trois nouveaux hooks, en utilisant des accroches complètement différentes. L'IA change le texte, elle modifie l'image d'amorce, elle intègre même les mots-clés locaux les plus recherchés directement dans les sous-titres pour booster le SEO natif de TikTok et bam, elle relance la publicité au petit matin. Sans aucune intervention humaine, vous avez rafraîchi la vidéo, chaque pixel modifié est justifié par une donnée de la veille.
Je suis désolé, mais je n'y crois pas une seconde. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette mécanique m'effraie, franchement, pour l'avenir de notre industrie. Ce que vous venez de décrire, avec une admiration non dissimulée pour ce deep hooking, ce n'est absolument pas de la pertinence publicitaire. C'est littéralement du piratage des filtres de déduplication des plateformes.
Du piratage, hein ? Non mais le mot est quand même un peu fort là.
Mais c'est exactement la mécanique technique sous-jacente. Meta et TikTok utilisent des filtres algorithmiques très précis pour repérer et pénaliser les vidéos identiques, pour ne pas lasser leurs utilisateurs. En demandant à N8N de modifier artificiellement juste les trois premières secondes d'une vidéo fatiguée, qu'est-ce que vous faites ? Vous attribuez simplement un nouveau code barre à un produit périmé pour tromper l'algorithme et le forcer à rediffuser le contenu.
C'est une optimisation de la distribution.
Ça masque surtout un problème infiniment plus grave. Si votre publicité provoque une fatigue chez l'audience en 72 heures, ce n'est pas parce que l'algorithme est capricieux. C'est, dans 9 cas sur 10, parce que votre contenu de fond, après la troisième seconde, manque cruellement de substance. Une histoire captivante, un produit qui résonne vraiment avec un vrai problème humain, ça ne meurt pas en 3 jours. En générant frénétiquement des nouveaux hooks synthétiques pour recycler le même corps de vidéos médiocres, vous ne créez aucune valeur. Vous exploitez simplement une faille dans le système.
Alors là, je ne suis pas du tout convaincue par cette ligne de raisonnement. Parce que vous jugez les comportements des consommateurs de 2026 avec les standards de 2010. Vous semblez vraiment penser que la fatigue d'une vidéo est le symptôme d'une mauvaise idée créative. C'est faux.
Ah bon ?
Oui, c'est simplement le métabolisme biologique des plateformes actuelles. Un utilisateur de TikTok, il consomme des centaines de contenus par jour. Sa tolérance à revoir la même image 2 fois, elle est proche de 0, peu importe la qualité intrinsèque de votre storytelling. Et surtout, face à votre argument sur le manque de substance et ce soi-disant piratage de l'attention, je suis obligée de revenir à notre donnée fondatrice.
Les 35% de baisse du CAC.
Exactement. Cette méthode itérative hybride abaisse le CAC de 35%. Si vous gérez une marque, c'est la différence entre exister et faire faillite. C'est aussi simple que ça. Les consommateurs ne sont pas des cobayes naïfs. S'ils continuent de regarder au-delà des 3 secondes qui ont été modifiées par l'IA, s'ils cliquent et surtout s'ils sortent leur carte bancaire pour acheter ce fameux complément alimentaire, n'est-ce pas la preuve absolue qu'ils valident la pertinence de ce format ? Le marché ne récompense pas les mauvaises expériences sur le long terme. Il récompense l'adaptation continue.
Je nuancerai fortement cela. Le marché, dans ce contexte très immédiat, il récompense l'efficacité de la captation, oui. Il récompense le réflexe conditionné du clic. Mais attention, un clic qui est extorqué par un hook généré par IA, qui utilise des stimuli visuels hyper agressifs juste pour interrompre le défilement, ça ne se traduit pas par une fidélité à la marque. La baisse de 35% de votre coût d'acquisition aujourd'hui, c'est l'arbre qui cache la forêt de la destruction de votre image de marque dans 3 ans.
Vous pensez que c'est destructeur à ce point ?
J'en suis persuadé. Quand le consommateur espagnol réalisera qu'il interagit depuis 1 an avec une coquille vide itérative, avec des lèvres synthétiques et des décors hallucinés, la confiance s'évaporera. La vélocité, le lip-sync, le deep-hooking automatisé par N8N, tout cela constitue un arsenal tactique impressionnant. Mais mon avertissement, il porte sur l'illusion stratégique. L'illusion de croire que le volume algorithmique et le rafraîchissement mécanique d'une base de 15 minutes pourront indéfiniment remplacer l'ancrage profond, culturel et émotionnel d'un concept original. Le humain est redoutable d'adaptation, vous savez. Tout comme on est devenu complètement aveugle aux bannières web au début des années 2000, on développera bientôt une cécité aux textures du vidéo à vidéo générées par l'IA. Et ce jour-là, croyez-moi, la fatigue publicitaire frappera l'IA elle-même.
Écoutez, c'est un vrai défi à moyen terme que les spécialistes du gros devront anticiper, je vous l'accorde bien volontiers. Mais pour synthétiser ma position à l'issue de cet échange, je maintiens que l'Ad Creative 3.0 représente une émancipation fondamentale. Elle libère les marques des contraintes de temps, de budget et de logistique physique. S'accrocher au dogme des tournages hyper-produits à l'ancienne face à des plateformes qui exigent une itération quotidienne, c'est refuser de comprendre l'évolution de notre écosystème. L'hybridation entre une base humaine et la puissance itérative de l'IA, c'est aujourd'hui la seule équation mathématique permettant de survivre à la fatigue et de maintenir une croissance rentable.
Et en guise de synthèse, pour ma part, je dirais que l'hybridation est effectivement devenue inévitable. L'erreur fatale, ce serait d'inverser la hiérarchie. L'intelligence artificielle doit demeurer un puissant outil de déclinaison et d'optimisation tactique, oui, mais elle ne doit en aucun cas devenir le moteur conceptuel de la marque. N'oublions jamais le mécanisme de base de ces technologies. Elles ne font qu'amplifier à une vitesse vertigineuse la matière qu'on leur fournit. Si vous leur donnez de la médiocrité ou du vide, elles le traduiront, l'optimiseront et le diffuseront parfaitement en 5 langues, mais cela restera du vide.
Et c'est précisément là que nous trouvons notre point de convergence le plus fort aujourd'hui. L'efficacité redoutable de ce modèle, ces fameux 35% de gains sur l'acquisition dont on parle depuis le début, ça repose sur une condition sine qua non. Le point de départ reste l'humain. Ces fameuses 15 minutes de master content originel, brut et sincère, tournées avec le fondateur, ça constitue l'étincelle vitale. Sans cette singularité humaine initiale, l'itération technologique, même avec les meilleurs workflows du monde, ne produirait que du bruit blanc.
Exactement, le logiciel a désespérément besoin d'une âme à découper et à analyser. Toute la tension de notre époque réside dans cette question au fond. Combien de temps et sur combien de marchés peut-on y tirer et synthétiser et remixer cette âme originelle avant qu'elle ne perde définitivement sa résonance humaine auprès du public ?
C'est une excellente réflexion pour clore ce débat. À vous, chers auditeurs, que vous soyez marketeurs, créateurs ou de simples consommateurs, on vous invite vraiment à observer vos propres réactions face à vos écrans cette semaine. Les données qu'on a décortiquées ensemble montrent que la tension entre l'art de convaincre et la science de la distribution algorithmique n'a jamais été aussi forte. Repensez à notre costume sur mesure ou à notre garde-robe modulaire générée par l'IA. Laquelle de ces approches définit vraiment la valeur de l'information que vous choisissez de consommer ? Le débat reste totalement ouvert et on continuera d'en explorer les rouages. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.